France Musique.
Bonjour Guillaume Thion.
Bonjour Saskia.
Alors Guillaume, quoi de mieux aujourd'hui ?
Pour aujourd'hui, nous parlerons d'un homme qui a marqué la musique, son histoire et son époque. Il s'agit là de Maurice Ravel, le créateur du fameux boléro qui fait comme ça, tac-a-ta-tac, tac-a-ta-tac, tac, poum, et on pourrait continuer ainsi pendant des heures. Tac-a-ta-tac, tac-a-ta-tac, tac, poum, et on pourrait continuer ainsi pendant des heures.
Guillaume ?
Oui ?
Vous reprenez ?
Oui, pardon. Alors, au lieu de chanter ce boléro que Ravel n'aimait pas, et à ce sujet, nous vous raconterons plus tard une anecdote, nous allons laisser d'autres musiciens s'en occuper. Alors intéressons-nous à Ravel. Qui était Joseph Maurice Ravel ? Né en 1875, le pianiste et compositeur fait le lien entre le post-romantisme de la fin du 19e siècle et les musiques modernes populaires de l'entre-deux-guerres. Il meurt en 1937, sans descendance, des suites d'une maladie neurodégénérative. Pour essayer de le comprendre, nous allons isoler quelques contradictions qui parcourent sa carrière. Première contradiction, son rapport aux courants musicaux. L'écriture de Maurice Ravel a traversé une série de courants. Pendant la Belle Époque, il est impressionniste. Après la Première Guerre mondiale, il devient néoclassique avec des références, notamment au baroque. Au milieu des années 20, Ravel, tourné vers les musiques américaines, mélange tout dans les dernières œuvres emblématiques que sont le concerto pour la main gauche et le concerto en sol. Ravel ressemble à un homme qui parlerait des langues successives et puis créerait son espéranto. Autre particularité, il se pose en ennemi du sentiment, tout comme son aîné Debussy. Anti-romantique, il façonne une musique d'artisan orfèvre, un horloger suisse, disait de lui Stravinsky, fondée sur le rythme, la danse et les tours de force, avec une certaine fascination pour l'artifice. Et pourtant, il suffit d'entendre deux mesures de Ravel le distancier pour comprendre la puissance émotionnelle rugissant sous la rutilante mécanique musicale. Seconde contradiction, son patriotisme. Quand survient la Première Guerre mondiale, Ravel veut s'engager, mais il a un problème de taille, il est trop petit et trop léger. 1m61, 45 kg et 76 cm de périmètre thoracique, écrit Jean Echenoz dans son Ravel. Le compositeur, qui a plus de 39 ans, fait jouer un piston pour être mobilisé, ce qui est hors norme. Il souhaite entrer dans l'aviation, il finira conducteur de poids lourd, c'est déjà pas mal. Le dandy parisien de la rue Carnot va ainsi approcher son taco des tranchées de Verdun. Mais l'expérience tourne court, il tombe malade. Ce patriotisme inouï, ardent et néanmoins tempéré. À l'époque, des musiciens regroupés en une Ligue nationale de la défense de la musique française publient une lettre pour refuser qu'on joue de la musique allemande ou autrichienne dans l'Hexagone. Ravel, le patriote, refuse de la signer. Il dit « Il m'importe peu que M. Schönberg, par exemple, soit de nationalité autrichienne, il n'en est pas moins un musicien de haute valeur dont les recherches pleines d'intérêt ont eu une influence heureuse sur certains compositeurs alliés et jusque chez nous. » Patriote, oui, mais pas ultra. Dernière contradiction, son rapport ambigu à l'académisme. Comme tous les jeunes compositeurs, il a tenté le prix de Rome en produisant des œuvres de facture sage. Il a échoué à 5 reprises, certainement victime d'un favoritisme qui ne jouait pas à son endroit et a donné lieu à ce qu'on appelle l'affaire Ravel. Aujourd'hui, l'affaire Ravel concerne plutôt la justice et la répartition des droits du boléro, une affaire hallucinante, mais c'est une autre histoire. À côté de ce prix de Rome, donc, qu'il aura tant désiré sans l'avoir, il refuse la Légion d'honneur quand on la lui offre. Musicalement, il ne verse pas dans la tonalité, quoiqu'il donne crédit aux recherches de Schönberg, et reste toujours accroché à la solidité d'un cadre conventionnel. Et cela alors qu'il défend ardemment Stravinsky en 1913, pour la présentation jugée scandaleuse du Sacre du Printemps. En fait, on ne sait pas très bien où se situe Ravel. Il est insaisissable. Dans une période qui a vu se succéder nombre de personnalités radicales, le compositeur peut être considéré comme un anticonformiste, mais pas un révolutionnaire. Ou alors, c'est un fou. Dévoilons maintenant l'anecdote. Son frère rapportait qu'à la présentation du boléro, que Ravel n'aimait pas, le compositeur ne comprenait pas les élans d'enthousiasme de la salle. Une spectatrice dit alors « C'est l'œuvre d'un fou !» et lui répondit « Ah bah voilà, Celle-là a compris.
Merci Guillaume. Alors pour répondre à votre question, Ravel est partout. On l'a entendu avec tous ses morceaux
et ses reprises du boléro.
Vous nous avez fait entendre pendant
super
votre chronique.
Super hit, le boléro. Oui.
Exactement. Merci beaucoup pour cette chronique qu'on peut podcaster sur le site de France Musique ou visionner sur les réseaux sociaux. Chronique réalisée en partenariat avec le quotidien Libération. Et puis Guillaume, pourquoi ne pas se quitter avec cette vocalise étude en forme de habanera de 1907 transposée pour harpe et flûte, ici avec Marie Lenormand et l'incroyable Jean-Pierre Rampal. Cela nous changera du boléro bonnement magnifique. Merci beaucoup,
Merci à vous.
Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.